Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé est préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est lumière. Voici le message que nous avons entendu de lui que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Frères et sœurs, chers auditeurs, la grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de ce Dieu-là, révélé par l'Écriture, comme esprit, c'est-à-dire réel au-delà du visible, comme lumière qui nous permet d'avancer, et comme amour, c'est-à-dire une réalité relationnelle qui se donne. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de ce Dieu-là et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie. Tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es la lutte contre la mort, la source de miséricorde. Tu es présent déjà dans l'histoire de l'ancien Israël et dans la lutte contre toute oppression et dans nos vies désorientées. Entre moi et ce qui m'écraserait, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie, tout entière, chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes. Mais par ton amour, je l'assume. Amen. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, c'est l'oubli de chercher Dieu. Le contraire du prochain, ce n'est pas le lointain, l'alibi, c'est celui dont je m'éloigne. Le contraire de la vérité, ce n'est pas l'erreur ou l'hésitation. C'est le fait d'enfermer ou d'imposer sa vérité. Écoute, Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu. Écoute. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Nous prions le Seigneur. Nous voici devant toi, notre Dieu, tel que nous sommes. Nous voulons te chercher. Nous avons tellement besoin de toi. Pardonne nos cœurs mal préparés, notre vie si médiocre, notre manque de foi. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Regarde-nous, Seigneur, regarde notre monde. Renouvelle en nous la vision de ton royaume et que nous te fassions reconnaître comme Dieu par la vérité de notre espérance et de nos actions. En toi est le sens de notre vie, Seigneur. Nous le savons, nous le croyons, nous l'expérimentons maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous recevons avec ces mots les paroles de grâce qui nous pardonnent, qui nous restructurent. Écoutons ces paroles. La foi est une consolation qui nous désaltère des sécheresses de la vie. La foi est une espérance qui nous pousse de l'avant vers la justice du royaume qui vient. La foi est un courage malgré le mal, malgré le doute. La foi est une paix que le monde ne peut pas donner. La foi est un cadeau du Seigneur. Ne crains pas, dit le Seigneur, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous confessons notre foi pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'homme et face humaine de Dieu, humble, souffrante, crucifiée. Il accepta la mort mieux que nous acceptons la vie. Il est ressuscité. Il vient pour libérer l'homme de ses idoles et nous donne sa paix. Je crois en l'Esprit qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu, ici et maintenant, événement de l'Église, dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Thank you. écouterons les lectures bibliques. Jean 17, avec ce langage particulier dans l'évangile de Jean, qui remonte en partie à Jésus. Et c'est une chose que l'on ne dit pas assez, je crois. Quand Jésus s'exprime dans l'évangile de Luc, donc l'autre évangile, c'est avec le vocabulaire et le style qui annonce l'évangile de Jean, avec le vocabulaire et le style même de Jean. Donc c'est qu'il y a quelque chose d'authentique et une certaine proximité quand Jésus parle dans Luc et dans Jean. Mais aussi, on est dans le contexte de l'Antiquité où les textes sont réécrits, comme dans les dialogues de Platon, où les paroles ne sont évidemment pas prises sur le vif. Une réécriture. En gros, dans les évangiles, on a d'un côté, on a l'évangile de Matthieu, donc avec un style, un vocabulaire juif, hébreu, rabbinique. Les paraboles de Jésus, par exemple, dans Matthieu, ressemblent énormément aux paraboles qu'on trouve chez les rabbins de l'époque, dans les Midrash. D'un côté, Matthieu, et de l'autre, Jean. Et Luc, quand Jésus parle dans Luc, donc un autre style littéraire, un style, un vocabulaire peut-être juif, hellénistique, un style grec, et en partie essénien. Donc je prends ce passage, bien connu dans l'évangile de Jean, chapitre 17, l'extrait fait partie de cette longue prière dite prière sacerdotale. Donc c'est Jésus, d'après l'évangile de Jean, qui s'exprime. « Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Passage donc de l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 9 à 18, que nous mettons au regard de 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous prions. Seigneur, tu es le don et la demande. Tu es la joie et la surprise. Tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'achèvement. Seigneur, tu es le ciel sur nos désordres, et la terre où nous nous aimons. L'univers contient tous les astres, et ton nom contient tous nos noms. Inspire-nous. Amen. Face aux situations du monde, situations politiques, religieuses, locales et internationales, et vis-à-vis de nos proches, familles, etc., faut-il être comme les autres, en symbiose avec l'environnement psychologique, moral, comportemental, idéologique, politique, juste assez contestataire, juste assez inquiet, comme nos voisins, comme nos proches, comme nos lointains, comme nos amis, comme nos ennemis. Faut-il que les chrétiens se fondent totalement dans les pratiques du jour ? Fantasmes, joie, préoccupations, réactions, manipulations, mode, dépression, sectarisme, l'air du temps. Faut-il que les disciples du Christ soient ni plus ni moins accueillants que les autres, ni plus ni moins voleurs, manipulateurs, manipulés, agressifs, dépressifs ou vindicatifs que les autres, ni plus ni moins égoïstes, ni plus ni moins tout comme les autres. Au Moyen Âge, on disait qu'avec les tisserands hérétiques, on était sûr de ne pas être volé sur la quantité d'étoffes rendues et sur le travail accompli. Donc, on allait chez eux. Au XVIe siècle, on disait que les protestants étaient plus fiables, plus honnêtes. Par contre, ils cessaient de donner aux mendiants pour ne pas participer à l'aumône mensongère, culpabilisatrice. Et pour faire son salut, il y avait donc tous ces gens qui allaient de ville en ville. Et la réforme a voulu stopper la mendicité pour donner du travail à tous. Au XIXe siècle, les protestants français dansaient moins que les autres, avaient des habits plus sobres que leurs voisins catholiques. Et ils étaient plus fiables, ce qu'on disait, plus austère aussi. Dans les villages rhodaniens, mais plutôt dans la région de nord de Nîmes, de la Gardoninque, les protestants parlaient l'occitan languedocien, alors que les catholiques l'occitan provençal. Et puis ils parlaient le français sans accent, s'ils étaient, même dans le midi, s'ils étaient de la bonne société, de la haute société protestante. Dans certains pays d'Afrique ou d'Océanie, les protestants ne devaient pas fumer de cigarettes et ne pas aller au cinéma. Mais bon, on sait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de cinéma dans les colonies françaises à cette époque. Au XXe siècle, lors de la perestroïka en URSS, on disait que les ouvriers chrétiens baptistes, donc les protestants russes, buvaient moins que les athées ou que les orthodoxes. Faut-il être comme les autres, fondu dans la majorité, assimilé, nivelé, fondu dans la masse, jusqu'à ne plus faire contraste, ou au contraire, toujours prêt à se démarquer, toujours prêt à prendre le contre-pied. Mais cela peut être aussi une mode, la mode de la marginalité, toujours à contre-courant, la mode du repli sur soi, la mode de la méfiance absolutisée, jusqu'à ce que la surprise ne surprenne plus, jusqu'à l'illusion des illusions constamment répétées, le paradoxe dogmatisé, le pouvoir de contester, pessimiste de tous les pays, unissez-vous. Faut-il être comme les autres, jusque dans leur refus, jusque dans leur blocage, jusque dans leurs anesthésies. Quelquefois, on essaye dans nos églises de faire un peu comme les autres. Par exemple, à l'époque de mai 68, un peu après, les pasteurs, les protestants français, les pasteurs ont opté pour l'abandon de la chair et de la robe pastorale. C'était l'époque où aussi les instituteurs enlever les estrades et enlever les blouses grises. Et puis aujourd'hui, on nous dit que les évangéliques attirent les jeunes. Alors, on essaie dans les églises historiques, luthéro-réformées, on essaie de faire comme les évangéliques, en tapant des mains, en essayant d'être jeune, rigolo, en choisissant de la musique des années 70. Alors que les jeunes, s'ils y vont, ne vont pas pour cela chez les évangéliques. Faut-il faire comme les autres ? Au Moyen-Âge, on était ascétique, au moment de la réforme encore aussi. Et maintenant, on nous dit dans les églises, « Venez dans nos paroisses, on fait des repas paroissiaux, venez, c'est sympa. » Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Prie le Christ de l'évangile de Jean. Non pas être ôté du monde, car à force de vouloir se différencier, se protéger, à force de refuser tout compromis, on s'empêche d'être soi-même. Vivre, c'est être ouvert à la vie, ouvert aux autres, ouvert à l'avenir. Mais ne pas se perdre, ne pas se dissoudre, car à force de ressembler à tout le monde, dans tout et dans le n'importe quoi, même l'irréalité ou l'exagération de nos craintes, dans la dislocation ou l'engloutissement des modes de notre société, on perd son existence. Il y a dans la prière de Jésus un arrachement, une opposition. Je te prie de les préserver du mal. Mais il y a dans la même phrase l'idée de solidarité, de rattachement, de dépendance, de proximité. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Certains exégètes modernes, spécialistes donc des textes anciens et de la Bible, disent que tout ce chapitre 17 de l'évangile de Jean est calqué sur la prière du grand prêtre juif à l'époque du temple à Jérusalem. La prière du grand prêtre juif à Jérusalem avait trois parties. Premièrement, il priait pour lui-même et son ministère. Et effectivement, dans ce texte, Jean 17, Jésus prie pour lui-même. Deux, ensuite, le grand prêtre priait pour les autres responsables du culte juif à Jérusalem. Et Jésus prie pour ses disciples dans ce passage. Et enfin, troisième partie, le grand prêtre priait pour tout le peuple placé au bénéfice du culte israélite. Jésus prie pour tous ceux qui croiront à la suite du témoignage apostolique. Et dans sa prière, Jésus insiste sur le nom, c'est-à-dire la nature, le fondement, l'explication, le nom, la nature que le Père lui a communiquée, le nom, c'est-à-dire la révélation de ce qu'il est et le comment de sa présence. Or, le grand prêtre à Jérusalem était le seul juif à prononcer le nom de Dieu. Une fois par an, Yahvé, je suis, le jour du grand pardon, du Yom Kippour. Jésus, c'est-à-dire Yeshua, Yahvé sauve, transmet la révélation, le nom, la présence de Dieu. Voilà la signification de cette page magnifique, Jean 17. En disant « Je suis Yahvé », il prononçait le nom de Dieu. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Comme lui-même, nous sommes dans le monde, mais comme lui-même, nous sommes dans le monde sans être du monde. » C'est-à-dire, d'abord, nous sommes appelés à être des signes distinctifs, des îlots de résistance ou des signes de contradiction et d'espérance. Bien sûr, nous sommes d'abord comme tout le monde. Nous sommes faits de la même pâte humaine. Nous pouvons être grands, petits, malades, bien portants. Nous pouvons avoir des soucis ou des joies dans notre recherche personnelle, dans l'éducation au travail, dans l'éducation de nos enfants. Nous pouvons avoir des problèmes financiers ou au contraire être dans un bien-être matériel. Nous sommes sous le même ciel comme les autres. Nous subissons les effets de la pollution, les évolutions technologiques et médiatiques, les changements climatiques, la fin des idéologies influencées par les médias toujours nouveaux dans notre société. Citation. Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes ni par les terres qu'ils occupent, ni par la langue qu'ils parlent, ni par leur manière de s'habiller. Ils ne s'isolent pas dans leur ville, ils n'utilisent pas un langage particulier et ne mènent pas un genre de vie spécial, disait à Diognète, un apologiste chrétien des premiers siècles du christianisme. Donc un texte très très ancien. Pratiquement contemporain du Nouveau Testament. Ce qui distingue les chrétiens, et on pourrait le dire aussi pour tous les autres croyants, ce qui distingue les chrétiens ou les croyants, se trouve au fond, nous portons un trésor, pas forcément dans l'apparence. Et quand Jésus nous dit que nous ne sommes pas du monde et qu'il y a quelque chose en nous ou par nous qui doit faire contraste, c'est comme, voyez-vous, c'est comme le sel de la terre, ou comme le levain dans la pâte, de façon cachée, mêlée. Dans l'épître à Diognète, que je viens de citer, cet extrait, il était rappelé que les chrétiens habitaient dans les différents pays, donc c'était le pourtour du bassin méditerranéen, mais comme des citoyens des cieux. Qu'ils se déplaçaient comme tout le monde, ils avaient des enfants, ils obéissaient aux lois établies des différents pays, dans la chair, mais pas selon la chair, dit le texte. Et l'épître à Diognète prenait ensuite l'image de l'âme et du corps. L'âme est présente à toutes les parties du corps, de même les chrétiens sont disséminés dans la société, mais il y a un dialogue, une complémentarité, et quelquefois il y a une opposition entre l'âme et le corps. Ce que le monde attend, c'est que les chrétiens aient le courage de la différence. Être l'âme du corps. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Voyez-vous, le christianisme est passé par l'étape de la chrétienté qui fausse un peu les choses. Le Moyen-Âge se croyait, par exemple, arrivé avec ses 160 000 paroisses, avec les églises un peu partout, des prieurés, des crucifix, partout. Et la sanctification de tout l'espace. Croix dressée, reliques dans toutes les églises, lieux saints, lieux de pèlerinage. Avec la dogmatique imposée, Dieu a tout créé, on expliquait tout dans le christianisme, avec la féodalité. L'Église s'était identifiée au monde, en fait. Et elle avait un peu perdu son âme. La réforme brisa cette confusion regrettable, créa une brèche, une rupture purificatrice. Et la Bible fut ouverte. Vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Et ce fut un monde nouveau, une autre logique qui surgissait, un recul, un détachement. Et pour nous aussi, encore, le message chrétien débute par une remise en question, quelque chose d'inassimilable. Nous ne sommes pas du monde. Mais ensuite, la réforme, et c'est ce qui la distingue de la secte, retrouva son historicité, son élargissement, vers le monde, le réel, nous. Comme Jésus, non du monde, mais de Dieu, mais venu dans le monde. Le christianisme véritable n'est pas une religion du statu quo, de la tradition, du conformisme. Il n'est pas non plus, ce christianisme véritable, une religion du jugement, de la négativité, ou de la fuite, ou de la contestation, toujours répétée. Donc être protestant, c'est prendre de la distance, c'est être ouvert, bienveillant. Les historiens des religions ont classé les familles spirituelles en famille dans toutes les religions du monde, en famille pessimiste et famille optimiste. Le christianisme n'est pas à classer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Donc le christianisme est un peu entre plusieurs familles spirituelles. Le christianisme biblique est à la fois réaliste, donc quelquefois pessimiste. Il relativise le monde, les institutions, pourtant nécessaires, les institutions de notre société. Nous ne sommes pas du monde. Mais ce christianisme espère, donc il est optimiste, parce qu'il y a une promesse magnifique pour nous et nos enfants, un accompagnement et un horizon avec nous et pour tous. Et c'est ce qui est formidable. Amen. Prions le Seigneur. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, révélateur de cette vérité mystérieuse qui nous porte et que nous nommons Dieu. À une prochaine fois.
Voici maintenant une annonce. Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette Église, nimes-église-protestante-unie.fr, nimes-église-protestante-unie.fr, ou en envoyant un chèque à l'Église protestante unie de Nîmes, à la Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.
Thank you.